au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Mercredi 3 juin, quelle magnifique journée sur Lanaudière. Oh, ça commence à sentir les vacances d'été. À l'émission aujourd'hui avec Pierre Paquette, il sera question de la visite de la première ministre albertaine Danielle Smith à Québec aujourd'hui. Benjamin Robert sera avec nous, il est d'Action Logement Lanaudière. Il nous parlera de nombreux ménages qui sont présentement à la recherche d'un logement. La date fatidique s'en vient, 1er juillet. Martine Gendron et Louis-Philippe Lemay du Festival culturel pour enfants de Repentigny seront avec nous, un des plus importants festivals pour enfants au Québec. Mais tout d'abord, on a appris dans l'actualité cette semaine que ça va pas très très bien pour le milieu du cinéma. Les cinémas québécois qui enregistrent 11,5 millions d'entrées en 2025, une baisse de 15% par rapport à 2024. C'est une étude de l'Observatoire de la culture et des communications de l'Institut de la statistique du Québec là, qui nous a révélé ça. En début de semaine. Et le cinéma RGFM de Joliette n'a pas échappé à cette tendance-là. Marie-Pierre Poulin s'est d'ailleurs entretenue avec Frédéric Venn, qui est vice-président des cinémas RGFM, parce qu'ils ont un cinéma à Joliette, mais il y en a aussi là, ailleurs au Québec, des RGFM. Alors, Frédéric Venn, vice-président de cinéma, des cinémas RGFM, est venu faire un petit tour dans nos studios là, pour parler avec Marie-Pierre Poulin.
On a vu de sortir les données comme quoi que il y a une diminution des entrées dans les cinémas. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi ressenti à Joliette ici?
Oui, pour commenter là-dessus, on est en ligne avec ce que l'Institut la statistique a sorti. En fait, ça vient de nos propres chiffres. Donc, tous les cinémas contribuent à envoyer ces chiffres-là au gouvernement. Donc, oui, on est en ligne exactement avec ce que les chiffres ont sorti. Donc, une diminution d'achalandage en 2025.
Mm-hmm. Donc, oui. Donc, ça, c'est en 2025. Et là, dans le fond, qu'est-ce qui explique un peu ça? Est-ce que c'est les coûts de production qui font qu'il y a une baisse? Non, les coûts de production qui font une baisse de production. Est-ce que ça a le lien entre son?
Il y a probablement probablement ça qui peut jouer, mais la principale raison, c'est la fourniture de films. Donc, depuis le retour de la pandémie, donc 2021-22 et compagnie, il y a moins de films qui sortent au cinéma. Donc, Hollywood en sort moins et le Québec également. Fait qu'on a un manque à gagner encore en 2025 d'environ 100 films par année de ce qu'on avait avant la pandémie 2019 et antérieure. Mm-hmm. Fait que c'est principalement la cause.
OK. Et pour 2026, on s'attend à quoi? Un peu la même chose ou?
Pour ce qu'on sait en ce moment, de les chiffres qu'on a, donc on a 5 mois déjà sous la cravate avec 2026, on est en ligne en ce moment avec 2024. Fait que 2024, oui, il y avait une baisse par rapport à 2023. Tout le monde considère que 2023, c'était un ressac positif pour le cinéma à cause que les gens avaient été sevrés à cause des confinements, etc. Donc, est-ce que 2024, c'est la normalité des salles de cinéma? Je ne sais pas, mais on s'enligne plus vers ça. Et surtout que le calendrier de 2026, au point de vue des sorties de films, la majorité des gros canons, des gros films, sont pas encore sortis. Il y en a quelques-uns, mais sont pas tous sortis. Et le plus gros problème qu'on a eu, à mon avis, entre autres en 2025, ce qui explique notre baisse, c'est la production de films québécois qui a été beaucoup plus basse. Puis en 2026, on a le même problème, sauf que les prochains mois s'annoncent quand même, on espère, plus positifs avec des gros films.
Et j'imagine que surtout dans Joliette, c'est ça qui est le plus populaire, les films québécois.
Oui, surtout en région. Puis je donnerai un exemple qui est peut-être un petit peu plus local. Au mois de novembre, on sort le film Villeneuve, l'ascension d'un champion. Puis la famille Villeneuve, c'est à Berthier, donc ça nous touche. Donc, il est probable qu'à Joliette, ce film-là soit beaucoup plus populaire qu'à Montréal ou d'autres régions comme ça. Là.
Et je sais qu'il y a le cinéma répertoire qui est offert les mardis. Est-ce que ça aussi, c'est encore populaire ou près?
C'est offert le lundi et le mardi après-midi. Le film est encore, je dirais, encore sa place et c'est pertinent de l'avoir. Et comme tout le reste a eu une baisse aussi. D'ailleurs, le film européen, le film français, le film répertoire, tous ont connu aussi une baisse. Et là, on n'est peut-être pas dans la fourniture parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de films présentés. Est-ce que c'est parce que les habitudes ont changé pour ce public-là, parce qu'on est habitué à regarder des films à la maison? Probable, ça se peut. Même de ce côté-là, on voit tranquillement un retour, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que ces films-là qui sont présentés en répertoire, souvent c'est des films qui n'étaient pas présentés en programme régulier. Et puis, à cause du manque de fourniture, on en a présenté beaucoup plus en programme régulier, ce qui a affecté le répertoire.
Okay. Et est-ce qu'il y a un autre phénomène qui peut affecter toute cette baisse-là? C'est aussi, j'imagine que les plateformes en ligne, ça aide pas non plus l'accessibilité des films qui sont de plus en plus accessibles.
Effectivement, il y a eu un gros, gros, gros changement dans les habitudes de consommation. Je reviens encore, malheureusement, à la fameuse pandémie qui, les studios de cinéma ont littéralement court-circuité les salles en sortant en simultané, même avant, pendant la pandémie, parce que les salles étaient fermées. Donc, ils ont fait tous ces tests-là. En ce moment, nous autres, dans notre industrie, il y a une grosse convention qui se passe aux États-Unis qui s'appelle le CinemaCon. Tous les gros majors ont fait un statement envers les salles de cinéma pour revenir à une fenêtre de 45 jours, etc. Donc, oui, ce qu'ils ont fait juste après la pandémie ou pendant la pandémie a probablement changé les habitudes des gens, puis oui, ça nous a affecté. Fait que changer les habitudes, c'est long, puis les reprendre, c'est aussi long. Fait que en ce moment, je crois qu'on est comme un peu dans cette mouvance-là.
Est-ce que vous pensez à des solutions qui pourraient aider à retourner rechanger un peu les habitudes?
En ce moment, on mise beaucoup sur la fourniture, comme je vous ai dit, qui est de plus en plus régulier, qui augmente, en fait, qui augmente. Donc, comme je vous ai dit, au CinemaCon, il a annoncé des gros titres. On le voit, il y a des annonces. Mais aussi, on essaie d'explorer d'autres avenues comme l'événementiel. Donc, il y a des films qu'on jouait pas auparavant, qui sont, exemple, faits par des YouTubers ou des gens qui ont aucun rapport avec l'industrie. Ou des films qui viennent carrément de séries télévision comme Netflix, comme au mois de juin, on sort un film qui s'appelle The Amazing Circus, Digital Amazing Circus, c'est tiré d'une série Netflix. Bref, comme Stranger Things était présenté dans certains cinémas, fait que il y a des trucs comme ça qui reviennent, qui sont plus récurrents qu'avant, puis qui sont plus événementiels, puis ça l'aide des fois à toucher les gens qui sont plus sur les plateformes, donc peut-être à les faire sortir, puis à prendre le goût justement d'aller au cinéma plus souvent, là.
Vous avez quand même espoir que ça perdure l'industrie du cinéma?
Ben oui, c'est sûr, je prêche pour ma paroisse, mais le cinéma a toujours, ça fait 100 ans que ça existe. Les gens aiment sortir, les gens sont grégaires, ils aiment pas. Il y en a qui aiment rester enfermés, mais je pense que la plupart des gens, comme on a vu avec les séries du Canadien, les gens voulaient se regrouper. Donc, je pense qu'il y a un signe. Puis les cinémas sont là, donc je crois qu'on est encore pertinent, mais on doit s'adapter, comme vous avez dit, à la nouvelle réalité des plateformes et les autres habitudes de consommation. Fait que on va devoir trouver d'autres idées à part celles que je vous ai nommées.
Marie-Pierre Poulin qui s'entretenait avec Frédéric Venn, le vice-président des cinémas RGFM. Et M. Venn tient quelque chose d'assez important dans ses propos, dans les derniers propos, qu'il a dit, c'est que les gens tiennent à se regrouper pour voir un film. Et il n'y a rien de mieux que de se retrouver en salle avec des dizaines de personnes pour voir une comédie et d'entendre tout le monde éclater de rire en même temps sur le même punch dans le même film. C'est absolument formidable et rien de mieux et rien de plus prenant que de regarder un film sur un écran géant. C'est sûr que, ben oui, ça coûte un petit peu plus cher que de regarder un film sur Netflix à la maison, mais l'ambiance est là. Ça va de soi. Dans un moment, Martine Gendron et Louis-Philippe Lemay du Festival culturel pour enfants de Repentigny.
Son X Plus vous offre une gamme complète de produits technologiques tels que téléviseurs, systèmes audio domotiques, produits connectés et systèmes de sécurité. Recevez un service personnalisé afin de vous aider à faire le meilleur choix. Merci de choisir une entreprise locale. Son X Plus, joliette.com.
Écoute en direct, actualité régionale, réécoute, concours et bien plus sur l'application CFNJ à télécharger sur Android et Apple.
Québec Redneck Bluegrass Project débarque pour une soirée explosive à Joliette le 20 juin avec le phénomène de l'heure, angine de poitrine et en première partie, l'énergie brute de Blam.
quand ça va bien, que c'est un de ces matins.
Le groupe présentera les chansons de nouvel album à venir ce printemps, sans oublier leurs incontournables. Viens célébrer le début de l'été lors d'un show qui promet d'être mémorable au parc Louis Kerb à Joliette. Réserve tes billets dès maintenant au spectaclejoliette.com.
Profitez du beau temps pour changer votre toiture. Misez sur les toits idéal et permanent. Les spécialistes du bardeau métallique. Aucun entretien, écologique, c'est le choix intelligent. Communiquez avec nous dès maintenant sur toitureidéal@pluriel.com et profitez du financement disponible. toitureidéal@pluriel.com.
Entreprise et organismes à l'écoute. Ne manquez pas votre chance de briller au Salon 50+ de la FADOC Région Lanaudière, présenté pour une troisième année consécutive par les Habitations Bordelot. Les 25 et 26 septembre, venez rencontrer des milliers de visiteurs aux Galeries Joliette. C'est l'occasion idéale de faire connaître vos produits et services à une clientèle active et engagée. Réservez votre kiosque dès maintenant. Contactez la FADOC ou visitez le fadoc.ca pour tous les détails. Soyez exposants au Salon 50+ et faites rayonner votre organisation.
CFNG. L'anneau d'IRPM. Famille.
Il est 16h18. Le plus important festival culturel pour enfants au Québec aura lieu du 10 au 12 juillet prochain au parc de l'île Lebel à Repentigny. Une 33e édition, tout à fait gratuite d'ailleurs, avec une programmation qu'on dit riche. Comme l'explique Martine Gendron, qui est vice-présidente de l'événement, et Louis-Philippe Lemay, le directeur général et artistique de ce qu'on a appelé Mon Festival, festival donc pour enfants. Et notre collègue Régent Turgeon a eu l'occasion de les rencontrer.
Madame Gendron, une édition 2026 qui est quand même spéciale quand on pense à la petite histoire de ce Mon Festival.
En fait, depuis sa création en 1993, Mon Festival a accueilli plus de 300 000 visiteurs et présenté des centaines de spectacles professionnels destinés au jeune public.
Pourquoi c'est important pour les jeunes, là?
Faire découvrir les arts aux jeunes, c'est nourrir leur imaginaire, c'est éveiller leur curiosité, leur donner la confiance nécessaire pour créer, s'exprimer et prendre leur place dans le monde. En fait, chaque enfant qui participe à mon festival entre dans un univers de possibilités, un univers où l'on apprend à imaginer, à créer, à s'exprimer et à rêver plus grand. La culture nourrit la curiosité, développe la confiance et contribue à bâtir une société plus ouverte, plus créative et plus humaine. Collectivement, elle façonne notre histoire, notre identité et notre avenir. Quand on offre à nos enfants la chance de s'en inspirer et de devenir une relève audacieuse, engagée et inspirante, c'est ça qu'on veut.
Que vous êtes en train de me dire, Mme Gendron, vous avez bien appris votre leçon. C'est le plus important festival du genre au Québec?
Absolument. On est le seul à viser le jeune public. Et en plus, nous sommes gratuits. Quand on sait combien coûte la culture, comment c'est le premier thème qu'on a tendance à couper quand on a un budget un peu serré, à Repentigny, c'est gratuit pour tous. Et on a une programmation extraordinaire. Mon président, mon directeur général va vous en parler.
Une tradition bien établie qu'on veut garder à l'évidence.
C'est évident, Repentigny, la culture, c'est un maillon, c'est vraiment un pilier de notre société.
Monsieur Lemay, l'édition 2026 de mon festival, ça veut dire qu'on promet aux enfants une odyssée artistique complète et gratuite sous la thématique de l'eau. C'est un bon point de départ.
Un bon point de départ, ça va être un vrai bain de culture, comme on aime le dire dans l'équipe. On parle de plus de 30 spectacles pour les enfants, magie, théâtre, cirque, danse, marionnettes, j'en passe, fait que de tout pour se divertir.
Et là, il y a des nouveautés cette année, comme on essaie d'en avoir à tous les ans, j'imagine.
Ben oui, c'est ça. On essaie de se renouveler dans les activités, dans les spectacles, dans la façon de présenter le festival. Donc, comme vous l'avez dit, c'est la thématique de l'eau cette année. Avec tous les spectacles, on va retrouver une touche sur l'eau. C'est l'eau, c'est la ressource qu'on a. Le corps humain est composé de 50 à 70% d'eau. C'est une ressource essentielle, mais c'est l'heure du bain aussi. C'est les vacances à la plage. C'est la pluie, c'est la tristesse, les joies, les larmes. Fait qu'on va tout retrouver ça dans nos spectacles, dans notre programmation.
Vous parlez de spectacles. Moi, ça me dit qu'il va y avoir 5 scènes, là. Ça, c'est un déluge de spectacles et évidemment, c'est en plein air.
Oui, 5 scènes exact. Donc, si vous pensez au gros festival pour adultes, le Festival d'été de Québec, Oshiaga, ben c'est la même chose, mais pour enfants. 5 scènes, les scènes sont peut-être un petit peu plus petites, là, mais 5 scènes de spectacle. Un parent qui vient avec son enfant au festival, le festival, ça débute à 10 heures, ben, il peut voir un spectacle différent toute la journée jusqu'à la fermeture à 16 heures en se promenant de scène en scène. C'est fait pour qu'on puisse se promener sur le site pour voir des spectacles différents.
Et quand on parle d'atelier, on peut parler de différents types d'ateliers où on peut impliquer les enfants, ne serait-ce que pour faire de la peinture sur un mur ou une toile?
Nous, on a une mission artistique, fait que c'est de faire découvrir les arts aux jeunes et la culture, c'est de les initier, de stimuler leur imaginaire. Fait que toutes les activités, ça tourne autour des arts. Donc oui, les murales de peinture, des ateliers de cirque, des ateliers de musique sur des djembés, des ateliers de danse, des ateliers de théâtre. Fait que c'est vraiment d'initier les jeunes à une multitude de possibilités que les arts peuvent leur offrir.
Au fil des ans, là, est-ce que les parents vous témoignent de leur appréciation de ces événements-là? Je veux dire, mon enfant a apprécié, merci beaucoup. Est-ce qu'on sent l'implication des parents derrière les enfants, justement?
Ben oui, puis une des choses que les parents apprécient beaucoup, c'est que c'est gratuit. Hein? Tout ça, tous ces spectacles, ces 30 spectacles-là, ces 5 scènes de spectacle, le but, c'est que les parents, ils sortent jamais d'argent de leur poche. Ils peuvent amener leur lunch aussi. On a des espaces pique-nique. Fait que c'est apprécié des parents. Au-delà de ça, moi, j'ai vécu des beaux moments à travers les années d'enfants qui, naïvement, vont dire « C'est le plus beau jour de ma vie. C'est le meilleur spectacle que j'ai vu. C'est ça, notre vraie paye. Hein. »
Et ce qui est nouveau aussi cette année, c'est qu'on peut aller sur une application FEST, de FEST, pour connaître la programmation. C'est important de le faire.
Exact. FEST, F-E-S-T. Trouvez ça sur toutes les plateformes où vous pouvez vous procurer des applications. Donc, sur l'application, bien, vous avez le plan de site, vous avez toute la programmation détaillée par heure, par horaire, par artiste. Puis, on va pouvoir vous envoyer des notifications aussi sur les prochains spectacles à venir dans la journée, puis lesquels à ne pas manquer.
Pour ceux qui l'auraient manqué, le rappel des dates et de l'endroit, s'il vous plaît.
C'est du 10 au 12 juillet à Repentigny, au parc de l'Île-Lebel, et c'est 100% gratuit.
Merci beaucoup, M. Lemay.
Merci.
C'est Régent Turgeon qui s'entretenait avec Louis-Philippe Lemay, qui est directeur général et artistique de Mon Festival du côté de Repentigny du 10 au 12 juillet, comme il le disait. On a entendu également dans les dernières minutes Martine Gendron, qui est vice-présidente de l'événement. Il y a la première ministre albertaine, Danielle Smith, qui est en visite à Québec aujourd'hui. Elle rencontre d'ailleurs Christine Fréchette, la première ministre du Québec en ce moment. Il en sera question tout à l'heure. Là, restez là dans environ quoi, une vingtaine de minutes avec Pierre Paquette.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
La métropolitaine pour en direction est, ouais, je regarde pour Charles de Gaulle. Ça devient dense à l'approche de Marien, un peu plus lourd, secteur du tricentenaire. Nombreux jusqu'au pont d'étagement du CN. Pour la suite, ça va très bien. On traverse aisément la rivière des Prairies, Repentigny, 40, direction ouest, un peu plus nombreux entre Industriel et Valmont. La 341, montée de l'Épiphanie, très lourd actuellement entre la 40 et la rivière l'Assomption. Pont Le Gardeur, ça va bien à l'approche par Sherbrooke et Notre-Dame. C'est sur le pont là que c'est un petit peu plus dense en ce moment. 25 Nord, c'est depuis un peu avant Henri Bourassa, dense, et ça le demeure jusqu'à environ un kilomètre passé la jonction avec la 440 Laval. Secteur de l'île Saint-Jean, Terrebonne-Mascouche, ça va bien pour la 25 Nord. Pont Sophie-Masson, lourd depuis environ 500 mètres avant la rivière des Mille-Îles, traversé quand même pas si mal. Et finalement, autoroute 640 entre la 25 et la 40 en direction est. C'est un petit peu lourd à l'approche de la montée des Pionniers de la 40 et direction ouest. On circule sans problème. Pierre Jubinville et l'actualité dans un instant.
La clinique podiatrique de Joliette vous informe.
Vous souffrez d'une fascite plantaire, d'un oignon, d'une verrue, d'une infection ou d'une fracture? Venez rencontrer mon équipe à la clinique podiatrique de Joliette au 222 de la Visitation à Saint-Charles-Bromé. Nous offrons une gamme complète de services podiatriques tels que soins des pieds, orthèse plantaire, injection de cortisone, chirurgie mineure, radiographie ainsi que la podiatrie sportive. Renseignez-vous au 450-398-PIED, 398-7433 podiatrejoliette.com.
Bonjour, ici Carole. Comme je sais plus comment vous le dire, je vais vous faire un dessin. Une image vaut mille mots qui disent. Un gros feu de rebut avec un bidon d'essence. Là-dessus, tiens, un beau gros X. Un feu de camp pas éteint, quinte-toi, on le barre. Un mégot de cigarette dans le bois, tu le vois? Ben, un gros X là-dessus aussi.
Excuse, Carole, justement, on le voit pas parce qu'on est à la radio.
T'es-tu sérieux, là? Regarde, c'est simple. Évitons les feux évitables. J'espère que c'est clair.
Un message de la SOPFEU avec la participation financière du gouvernement du Québec.
Envie de manger un bon repas dans une ambiance décontractée? Le CA Resto Traiteur au centre-ville de Joliette propose une cuisine authentique mettant en vedette les saveurs lanaudoises et des produits frais. Découvrez le menu midi unique à toutes les semaines ou encore le menu régulier pour dîner ou souper. Le CA Resto Traiteur offre aussi son service de traiteur personnalisé pour toute occasion. Mariage, réunion d'affaires, anniversaire, corporatif et bien plus. Informations et réservations au 450-394-5880. Le CA Resto Traiteur, 434 Boulevard Monceau à Joliette.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Saint-Marcel-de-Richelieu, Épicerie Marie, à Saint-David-Diamasca, Marché du Village, à Saint-Germain-de-Grand-Âme, Marché du Village, Dépanneur 122, BMR Express Saint-Guillaume, Aguisca Coopérative, à Pierreville, Dépanneur Gamelin, Dépanne Express, à Yamaska, Marché Blanchette et Vincent. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Êtes-vous à la recherche du bonheur ou le cherchez-vous pour vos parents? Aux Habitations Bordelot, on croise chaque jour des centaines de résidents heureux qui affichent leur plus beau sourire. C'est certainement parce qu'on a créé pour eux un milieu de vie chaleureux, sécuritaire et dynamique où il fait bon vivre. Et saviez-vous qu'en plus, nos cuisines adaptent leur menu selon les goûts de leur clientèle? Venez nous visiter et prenez le temps de vivre. Aux Habitations Bordelot, le bonheur est là. Visitez habitationsbordelot.com.
L'actualité de ce mercredi 3 juin en manchette. 226 ménages de Lanaudière à la recherche d'un logement. On est toujours en attente d'une réaction d'Ottawa sur le logement autochtone. Et encore des droits de douane gracieuseté de Donald Trump. Et tout d'abord, Pierre Jubinville, la crise du logement n'épargne personne.
Chaque année, Claude, le scénario se répète, donc à l'approche du 1er juillet, on compte maintenant 2500 ménages qui sont à la recherche d'un logement. Dans la Lanaudière, ce sont 226 ménages qui ont sollicité un service d'aide. Et comme nous l'explique Marie-Pierre Poulin, tout le monde est touché.
Si on regarde les 20 % des logements moins chers qui sont offerts, on est proche de zéro.
Malgré une hausse de logements disponibles, la situation demeure précaire, selon Benjamin Robert, qui est organisateur communautaire pour Action Logement Lanaudière. En effet, aucune tranche d'âge n'est épargnée par cette crise du logement.
Bien sûr, des jeunes qui n'arrivent pas à quitter le foyer familial. On voit aussi beaucoup de personnes âgées, des personnes qui étaient dans leur logement depuis 10, 15, 20 ans, qui payaient relativement peu cher de loyer. On a beaucoup les cas des mères monoparentales ou des situations de séparation.
La construction de logements sociaux devrait être la priorité plutôt que de continuer à alimenter le marché privé.
Tant qu'on considère le logement comme une marchandise, donc c'est une initiative privée qui rapporte du profit à des propriétaires ou à des compagnies de gestion, on va répondre avec des solutions qui sont à l'origine même du problème.
Selon Action Logement Lanaudière, il est crucial que le gouvernement mette en place des solutions à long terme. Marie-Pierre Poulin pour CFNJ Nouvelles.
Bon, maintenant dans un autre volet, Pierre, on va parler de logements autochtones, le Bloc québécois qui réclame un geste d'Ottawa.
Et récemment, Claude, Amnesty International a publié un récent rapport donc sur l'état des logements là-bas, à Manawan, et c'est pas très joli.
Non, vraiment pas.
Dans ce document, Amnesty sonne l'alarme et le rapport fait état d'un surpeuplement et de logements vétustes. On va écouter le député bloquiste de Joliette-Manawan, Gabriel Sainte-Marie.
ça avance, mais à pas de tortue beaucoup trop lentement. Quand je lis les budgets, je me réjouis souvent les budgets du gouvernement Trudeau parce que les sommes pour le logement des Premières Nations, des Autochtones y étaient. Mais je déchantais à la fin de l'année quand je regardais dans la colonne des crédits périmés, l'argent voté non dépensé, ben les sommes s'y retrouvaient. Il y a urgence d'agir, ça fait longtemps qu'on le dit, le rapport d'Amnesty le rappelle.
On reste dans le dossier des Premières Nations, le projet d'une école autochtone qui avance à grands pas à Joliette.
Oui, le Centre d'amitié autochtone est en voie de remporter son pari. C'est une école dédiée à la communauté qui va progressivement voir le jour dès septembre dans les locaux actuels sur la rue Sainte-Anne. À compter de septembre, donc, elle comptera une classe de préscolaire, laquelle est en cours d'aménagement. Et évidemment, l'argent tarde à rentrer. Luc Parlavecchio est le directeur santé, éducation et intervention sociale au CAL.
Donc, il reconnaît la pertinence du projet, mais pour l'instant, il se laisse un peu tirer les oreilles pour mettre des fonds, alors que le centre de service scolaire, lui, est prêt à s'engager.
Il y a le tribunal qui étudie toujours la requête de la Syrie Saint-Michel.
Oui, la CSN, qui représente quelques salariés de la Syrie, demeure sur un pied d'alerte en prévision de la décision à venir de la Cour supérieure. Elle a été saisie d'une requête de la direction qui veut maintenir ses opérations. Le dossier est plus complexe qu'on peut le croire, nous dit Patricia Rivet, qui est présidente du Conseil central CSN Lanaudière.
La compagnie s'est placée sur la loi de la protection de la faillite, mais au niveau des granules, qu'il n'y a pas des employés syndiqués CSN. Fait que ce bout-là, c'est sûr que pour moi, je suis moins au courant. Mais avec nous, là, c'est pas la Syrie, mais c'est le côté rabotage là qui est là. Ça touche environ là, une dizaine d'employés. C'est le même entrepreneur partout. Fait que faut comprendre que ça peut être oui, ça pourrait venir à l'été, mais pour l'instant, c'est pas toute la Syrie au complet.
Et finalement, Pierre, Donald Trump qui se trouve un nouveau prétexte là, pour imposer des droits de douane.
C'est le cas de dire un nouveau prétexte. Il souhaite imposer de nouveaux droits de douane à plusieurs de ses partenaires, dont encore le Canada. Cette volonté découle d'une enquête, cette fois-ci sur les importations de marchandises qui auraient été fabriquées en recourant au travail forcé.
Les États-Unis allèguent qu'une soixantaine de pays ne combattent pas suffisamment l'importation de biens issus du travail forcé. Il souhaite ainsi imposer de nouveaux droits de douane de 10 % au Canada, au Mexique, à Taïwan et au Royaume-Uni. Des dizaines d'autres pays, dont la Chine, le Japon et l'Inde, seraient pour leur part soumis à de nouveaux droits de douane de 12,5 %. Avec cette enquête sur le travail forcé, l'administration Trump tente visiblement de contourner les limites imposées à ses droits de douane par la Cour suprême. Les nouveaux droits de douane n'entrent pas en vigueur immédiatement puisqu'ils sont soumis à une consultation publique et à un examen. S'ils entrent en vigueur, les marchandises conformes à l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique seront exclues. Mathieu Paquette, La Presse canadienne.
Ben voilà, merci beaucoup,
bonne
Pierre.
Soirée,
passe une belle soirée. 30 beaux degrés actuellement au cœur de Lanaudière.
Lanaudière PM. Lanaudière PM. Claude Fournel. Lanaudière PM, immobilier.
Ouais, on vous en parlait brièvement dans l'information. À l'approche du 1er juillet, on compte plus de 2500 ménages à la recherche d'un logement au Québec. Et dans Lanaudière, ben, ce sont 226 ménages qui ont sollicité un service d'aide. Marie-Pierre Poulin s'est entretenue justement avec un organisateur communautaire de ce service Action Logement Lanaudière. Il se nomme Benjamin Robert.
Donc, Monsieur Robert, les données à l'approche du 1er juillet des ménages qui sont en demande sont sorties et on parle de 226 ménages qui sont en demande dans Lanaudière. Qu'est-ce qui explique en fait cette situation-là?
Ben, qu'est-ce qui explique qu'il y a autant de demandes de locataires pour les services d'aide à la recherche de logements dans Lanaudière? C'est tout simplement que les logements sont trop chers. Si vous faites un tour autant sur des plateformes comme Marketplace, Kijiji, etc., ou que vous baladez sur la rue pour trouver des panneaux d'annonces d'offres de logements, en ce moment, les logements sont extrêmement chers. Donc, beaucoup de gens ne retrouvent pas de logements alors qu'ils doivent déménager.
Et pourtant, on avait quand même remarqué une hausse de logements disponibles, non?
C'est ça. Alors, on a beaucoup parlé du taux d'inoccupation. Là, c'est le nombre, le taux d'inoccupation, là, pour expliquer là aux auditeurs, c'est le nombre de logements qui sont disponibles sur le marché. Là. On considère généralement qu'un point d'équilibre, c'est le 3%. On en parlait beaucoup là, il y a 5-6 ans, là, quand on avait commencé à vivre cette crise du logement. Là. On était bien en deçà de ça. Puis là, ça commence tranquillement à remonter. Bon, il y a des situations vraiment variées dans la Naudière. À Joliette, on est autour du point d'équilibre de 3%. Terrebonne-Repentigny, on est bien en dessous encore. Mais en fait, on se rend compte que ça, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'en fait, le taux d'inoccupation, c'était dans une vision, on avait l'intention de le changer pour le remonter vers 3%, mais c'est dans une vision où le marché est un marché d'offre et de demande. Or, le marché du logement est pas vraiment un marché d'offre et de demande. Parce que si les logements sont trop chers, vous allez juste pas louer un logement. Tout le monde a besoin d'un logement. Donc, en ce moment, oui, le taux d'inoccupation est en train de remonter, proche de 3% dans l'agglomération de Joliette. Mais si vous regardez qu'est-ce qui est disponible, c'est trop cher. Et c'est ça l'enjeu, en fait. C'est la question que on devrait se poser. C'est pas est-ce qu'il y en a disponibles, c'est lesquels sont disponibles. Mais on voit, si on regarde, si on découpe plus précisément les offres de logement en quintile, si on regarde les 20% des logements moins chers qui sont offerts, il y en a juste 0,2%. On est proche de zéro. On est à 0,2% de taux d'inoccupation. Donc, quasiment aucun logement qui est disponible pas cher. Par contre, dans ceux qui sont beaucoup plus chers, on est au-dessus du 3%. Non.
Et vous estimez...
Je ne vous ai pas trop embrouillé avec les chiffres.
Non, c'est parfait. Et vous estimez que ça serait quelle tranche d'âge qui est la plus vulnérable de cette situation-là?
Toutes les tranches d'âge sont touchées. C'est sûr, différemment. Là, on parle bien sûr des jeunes qui n'arrivent pas à quitter le foyer familial ou alors qu'ils retournent après quelques années à être sortis de chez leurs parents. On voit aussi beaucoup de personnes âgées qui se retrouvent touchées par cette crise, des personnes qui étaient dans leur logement depuis 10, 15, 20 ans, qui payaient relativement peu cher de loyer, qui là, pour X raisons, doivent déménager et se rendre compte de ce qui est devenu le marché du logement. Ça, on en a énormément. Des personnes âgées, on en a énormément. On a beaucoup de femmes aussi qui sont touchées par ça. On a beaucoup les cas des mères monoparentales ou des situations de séparation où les personnes ont vraiment de la difficulté à retrouver un logement.
Et outre le fait que les logements sont pas tous abordables, ce serait quoi les autres solutions qui pourraient être mises en place pour aider en fait ces personnes-là?
C'est sûr que si c'est un moment de crise autant sociale que personnelle, c'est un moment aussi où on peut se remettre en question. Je pense que socialement au Québec, on a besoin de se remettre en question. D'ailleurs, c'est la bonne année pour ça puisqu'on en est électoral. Mais il va falloir qu'on réfléchisse un peu plus globalement au problème du logement. C'est sûr que tant qu'on considère le logement comme une marchandise, donc c'est une initiative privée qui rapporte du profit à des propriétaires ou à des compagnies de gestion, on va répondre avec des solutions qui sont à l'origine même du problème. Fait que nous, ce qu'on dit depuis des années avec nos regroupements, c'est qu'il faut pousser pour du logement social, que ce soit des formes de HLM, de coopératives d'habitation, d'OSB, d'habitation, peu importe, ça peut prendre des nouvelles formes. Mais il faut pousser pour le logement social, pour démarchandiser le logement.
Et justement, vous en parliez, les élections approchent quand même à grands pas. Et là, dans cette foulée-là, Mme Fréchette fait plein d'annonces. Est-ce que vous estimez que les investissements sont mis au bon endroit?
Non, absolument pas. Là, je pense qu'on est toujours dans la vieille optique de la CAQ de favoriser l'accès à la propriété, mais qui ne répond absolument pas aux besoins des locataires les plus précaires. On n'apporte pas de solutions structurelles, donc on est encore dans la perpétuation de la crise.
Voilà, c'était Benjamin Robert. Il est organisateur communautaire chez Action Logement Lanaudière. Oui, le 1er juillet qui approche à grands pas. Et pour une rare fois à cette période-ci de l'année, j'ai eu l'occasion hier de voir un logement à louer ou une pancarte à louer devant un logement dans le centre-ville de Joliette. Encore faut-il que le prix soit accessible. Il est 16h40. Dans un moment, Pierre Paquette.
Votre réseau ralentit vos opérations? Avec Fleet Info, profitez de solutions réseautiques fiables, Wi-Fi performant et support technique rapide avec service d'urgence 24/7. Optimisez votre entreprise dès maintenant avec Fleet Info, expert TI.
Bonjour, ici Carole. Comme je sais plus comment vous le dire, je vais vous faire un dessin. Une image vaut mille mots qui disent. Un gros feu de rebut avec un bidon d'essence. Là-dessus, tiens, un beau gros X. Un feu de camp pas éteint, qu'un toi, on le barre. Un mégot de cigarette dans le bois, tu le vois? Ben, un gros X là-dessus aussi.
Excuse, Carole, justement, on le voit pas parce qu'on est à la radio.
T'es-tu sérieux, là? Regarde, c'est simple. Évitons les feux évitables. J'espère que c'est clair.
Un message de la SOPFEU avec la participation financière du gouvernement du Québec.
Entrepreneurs et contracteurs, Fenêtrage Saint-Ambroise vous attend pour ses journées portes ouvertes en collaboration avec Fenplast, votre destination de choix pour les portes et fenêtres au meilleur rapport qualité-prix. Le vendredi 5 juin, de 8h à 17h, venez discuter entre pros avec nos nombreux fournisseurs et découvrir nos nouveautés, dont la fenêtre Premia de Fenplast. Dîner barbecue, rafraîchissement en promotion et prix de présence. Et le lendemain, tout le monde est invité à la fête pour explorer notre centre de liquidation et découvrir notre nouvelle salle de montre. Les 5 et 6 juin, rendez-vous chez Fenêtrage Saint-Ambroise, 950 route 343 à Saint-Ambroise de Kildare.
Les Filles du Nord, c'est pas seulement un nom, c'est une manière d'habiter notre métier.
Il y a des maisons qui ont vu pousser des enfants à coups de rire et de grandeur gravés dans les cadrages. D'autres qui ont été retapés à coups des manches retroussées d'un dimanche bien fatigué.
Quand vient l'heure de passer le flambeau, on prend le temps. Comme on plie une courte poigne, cousue à la patience.
Avec ceux qui laissent un foyer derrière, on veille à ce que le fruit de tout ce qui a été bâti trouve preneur à sa juste valeur.
À ceux qui cherchent un nouveau toit, on balise le chemin pour que chaque détour ait du sens et chaque pas sa raison.
On marche aux côtés de ceux qui quittent autant qu'avec ceux qui arrivent. Le cœur pour comprendre, la tête pour guider et les compétences pour évaluer.
Les Filles du Nord, une manière de travailler qu'on cultive avec fierté.
Les Filles du Nord, équipe immobilière et Max Prestige, 514-503-8684.
Confiez votre véhicule à des pros de confiance. Chez Lustre Auto Saint-Félix, on redonne l'éclat d'un véhicule neuf grâce à notre gamme complète de services. Lavage intérieur et extérieur, cire rapide lustrée, traitement aquapel longue durée, restauration des phares et bien plus. Un service professionnel, des prix compétitifs et la satisfaction garantie. Venez nous voir au 4164 rue principale à Saint-Félix. Lustre Auto Saint-Félix, bon service, bon prix, puis un char qui brille.
Tous les matins en semaine, commencez la journée avec...
J'aurai des nouvelles, mais du passé de Saint-Cuthbert.
Moi qui viens du petit village à côté, oui. À Saint-Lambert.
Oui!
En fait, je suis même allé à l'école, à la maternelle.
Ah, oh, tiens! Ah,
t'es allé à l'école.
Parlant
c'est
de bon,
ça.
T'es pas prêt à ça?
J'adore. 1-0 pour Diane.
Lanaudière AM, avec Diana France, Louis-Simon Ferland et François Morin. En semaine, dès 7h25, à CFNJ.
À CFNJ. Voici le commentaire de Pierre Paquette.
Salut, bonjour Pierre.
Bonjour.
Pierre Paquette, il y a la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, qui est à Québec aujourd'hui. Elle a rencontré d'ailleurs ce matin la Fédération des chambres de commerce du Québec et en ce moment, elle est en rencontre avec la première ministre Christine Fréchette. On peut peut-être écouter là-dessus, d'ailleurs, la première ministre Fréchette, là, qui parle des sujets là, qui sont à l'ordre des discussions. On écoute là-dessus.
On va parler aussi du commerce entre le Québec et l'Alberta, parce qu'on a des économies complémentaires. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Nous, on exporte beaucoup des produits manufacturiers, des produits agricoles également, et puis des aéronefs, tandis que l'Alberta nous exporte des produits énergétiques et également des ressources naturelles. Alors, la rencontre d'aujourd'hui va permettre de resserrer ces liens commerciaux qu'il y a entre le Québec et l'Alberta.
On parle, Pierre, d'échanges commerciaux entre le Québec et l'Alberta qui totalisent environ 29 milliards par année, dont 11,5 milliards en exportation pour le Québec.
Oui, mais je pense que l'Alberta a besoin des produits manufacturés du Québec, mais je pense qu'en échange, ils vont vouloir qu'on leur achète leur gaz et leur pétrole. Alors, donc, ça veut dire un corridor énergétique qui va revenir dans le décor. Et on sait que Mme Fréchette n'était pas fermée à l'idée de ramener le débat sur les gaz de schiste. Alors, je pense pas que ça la dérangerait trop de ramener le débat sur un corridor, un pipeline qui irait de l'Alberta au Québec ou du Québec jusqu'à l'Alberta. Alors, je pense que c'était une rencontre qui était où chacun avait à défendre son point de vue, mais de façon plutôt amicale, parce que l'ennemi commun, ça demeure le fédéral, surtout pour Mme Smith. Elle voulait faire pression sur Carney. Ça, c'est évident.
Oui, mais permets-moi d'ajouter qu'il y a aussi comme ennemi les États-Unis, parce que Mme Smith a invité les gens d'affaires à se libérer du gaz naturel américain.
Oui, ça c'est vrai pour le gaz naturel, mais disons que l'Alberta, c'est quand même un grand exportateur de pétrole vers les États-Unis, alors ça m'étonnerait qu'elle veuille complètement s'émanciper de la relation avec les États-Unis. Mais ceci dit, je trouvais que c'était une rencontre qui crée beaucoup de pression sur le fédéral. On sait qu'actuellement, l'Alberta, avec la Saskatchewan puis le Manitoba, c'est à peu près les trois seules régions où les libéraux sont pas majoritaires, ou en fait sont pas en avance au plan des sondages. Et je pense qu'elle essaie de serrer le maximum de ce rapport de force-là, parce que les gens sont encore très échaudés des politiques énergétiques de Justin Trudeau. Il faut se rappeler aussi qu'ils avaient été très échaudés des politiques énergétiques du père de Justin, Pierre-Éliott Trudeau. Alors, c'est un peu une histoire qui se continue dans le temps. Alors, je pense qu'en venant au Québec, elle a voulu se servir du débat constitutionnel qui existe au Québec et qui existe maintenant en Alberta, mais de façon différente, pour faire pression sur le fédéral, pour dire, donnez-nous des choses si vous voulez qu'on reste.
Et d'ailleurs, compte en commun, le Québec et l'Alberta, tous les deux ont des projets de référendum dans l'air, là.
Ben exactement. Et puis, on a vu hier que le fédéral, M. Carney, a donné, a octroyé l'équivalent de 10 milliards de dollars sur plusieurs années pour les infrastructures, en particulier de transport collectif. Exactement la même entente que cherchait à avoir François Legault, mais bizarrement, avec Mme Fréchette, ça a mieux marché. J'ai l'impression que la perspective d'élection à l'automne fait réfléchir plus le fédéral qu'il y a quelques mois.
Oui, mais justement, parlant de ça, dans le cas, c'est certain que Mark Carney va essayer de donner des cadeaux aussi à l'Alberta, parce que là, ce qu'il a fait avec le Québec hier, c'est un gros feu d'artifice qui, en bout de ligne, pas extraordinaire, parce que quand on pense, de l'investissement dans les hôpitaux, je crois que pour l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, on aurait besoin de 7 milliards. Et là, c'est 1 milliard par année que le Québec va recevoir du fédéral.
Ben exactement. C'est un gros chiffre qui a été annoncé hier, mais c'est sur plusieurs années. Et puis, ça couvre énormément de domaines. Et ce qui est, encore une fois, ce qui me questionne, c'est comment se fait-il que M. Legault n'a pas été capable d'avoir cet argent-là et qu'il va l'avoir. Donc, la seule variable qui a changé, c'est que la perspective d'élection à l'automne est beaucoup plus proche. Et donc, M. Carney, je pense, veut donner un petit coup de pouce à Mme Fréchette.
Et ce sera le cas aussi pour Danielle Smith, j'imagine, mais...
J'ai l'impression, oui, t'as tout à fait raison. J'ai l'impression que Mme Smith, elle est pris dans cette promesse de tenir un référendum. Là, on a vu que sa question était tellement alambiquée que même la loi de la clarté, il voit pas clair.
C'est-à-dire, il faut rappeler là que c'est en Alberta un référendum sur un référendum. C'est-à-dire qu'on va poser la question au peuple albertain. Êtes-vous en faveur d'un éventuel référendum sur la souveraineté? Là, je dis ça là, brièvement, là, mais ça ressemble un peu à ça. Là.
Ben oui, exactement. Est-ce que vous voulez un référendum sur la souveraineté ou vous voulez rester dans le Canada? Alors, c'est pour ça que la loi sur la clarté ne s'appliquait pas, parce qu'il n'y a pas de... S'ils veulent un référendum sur la souveraineté de l'Alberta, là, la loi sur la clarté s'appliquerait, mais elle ne s'applique pas sur une question sur la tenue possible d'un référendum. Et on sait qu'actuellement, les sondages montrent que la proportion de ceux qui veulent un référendum, ça est autour de 30-35%. Alors, je pense que Mme Smith a joué de prudence, mais elle a vraiment emberlificoté la question.
C'est ça. Aussi, la particularité de tout ça, c'est que Danielle Smith, c'est pas elle qui est arrivée avec l'idée d'un référendum, c'est que c'est une pétition. Elle n'avait pas le choix là, de tenir un référendum là, parce qu'il y a eu une pétition. Là. Pierre?
La pétition a été invalidée par la Cour, mais parmi les troupes conservatrices, donc son propre membership, il y a beaucoup de gens qui sont favorables à cette idée de la souveraineté de l'Alberta, ou au moins de tenir un référendum pour aller chercher plus de pouvoir vis-à-vis Ottawa. Alors, je pense que ça va être très intéressant encore. Comme que je le disais, tout ça va arriver au mois d'octobre. Alors, ça va être un octobre 2026 très excitant.
Oui, en plus des élections au Québec.
Et puis, on fera un référendum. C'est est-ce que ça va être Albert-Québec ou Québec-Alberta?
Québerta, ben oui.
Puis, je pense qu'on se revoit juste mercredi, puis après, tu pars pour quelques semaines.
Je quitte demain, moi, pour les vacances.
Ah, bon, donc, je te souhaite de bonnes vacances.
Ben oui.
J'ai hâte de te revoir à l'automne.
T'en fais pas. Michel Arnois sera là la semaine prochaine, dans les prochaines semaines, pour conclure la saison. Merci, Pierre Paquette.
Merci, bye.
On se reparle en septembre. Ben voilà, c'est déjà tout pour l'émission d'aujourd'hui. Faites-vous-en pas, on est là demain. Hein. Marie-Pierre Poulin, je la remercie. Régent Turgeon, Pierre Jubinville, ainsi que Pierre Paquette. Ici Claude Fournel. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Manquez pas Nicolas Bellemare qui s'amène pour vous présenter la vie dans la Naudière avec Hugo Valquette et ensuite son 5 à 7 trad à CFNJ. On est là demain à 16h. Bye-bye.